J'ai compris que les demoiselles allaient nous rejoindre dans un quart d'heure, donc on va démarrer quand même. Bonjour à tous, c'est un grand honneur d'être là. J'étais de passage à Otsaratora il y a 15 ans, puisque j'étais le vice-président du club des Cordelières. C'était un club d'affaires qui avait été lancé par Jean-Paul Amoyel. Et en fait, on réunissait des hommes politiques, plein d'hommes d'affaires. Et j'en étais le vice-président, donc voilà, j'étais lié à Otsaratora comme ça. Moi, à titre personnel, je suis né à Paris. Je suis un jeune des écoles juives, exactement comme vous. Moi, j'ai pas été à Otsaratora, j'étais à Hori-Yosef, dans le 19e arrondissement. J'ai fait ma scolarité à Hori-Yosef jusqu'en 3e. Après, par accident, j'ai changé d'école et j'ai été à Maïmonide à Boulogne, où là, bon, j'ai eu un choc culturel, puisqu'on est une école un peu beaucoup moins religieuse, en tout cas à l'époque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1994, alors que j'avais 16 ans, j'ai été l'un des tout premiers à découvrir Internet. C'est-à-dire, j'étais l'un des tout premiers en France et au monde à être connecté à Internet. Et à l'époque, on payait sa connexion, on payait 80 francs de l'heure. Ça faisait 12 euros de l'heure de connexion. Aujourd'hui, on est connecté 4-5 heures par jour. À l'époque, on était connecté 4 heures par mois, 3 heures par mois, 4 heures par mois. En plus de ces 12 euros, on payait sa communication téléphonique, comme si on était au téléphone en même temps. Ça coûtait très très cher d'être connecté, mais c'était le début. Et j'ai eu, entre guillemets, la chance de tomber dedans tout petit et de devenir très vite, à 17 ans, j'étais journaliste informatique et j'écrivais dans les journaux informatiques, j'écrivais des articles sur Internet. Donc j'étais encore en première S, j'étais en train donc de préparer mon bac français. Et de l'autre côté, pendant certains cours ou en dehors, je ne vais pas dire de bêtises, fais attention, je préparais mes articles que je devais rendre pour le journal qui devait paraître 3 jours après et des choses comme ça. Ce qui fait qu'au final, moi en fait, mon rêve initial, c'était de devenir journaliste informatique. J'étais fan d'informatique, fan de jeux vidéo et fan de tous ces trucs-là. Et voilà, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de jouer toute la journée ou de passer du temps sur son ordinateur, c'est d'être journaliste et de tester plein de trucs. J'adorais ça. Et c'était ça mon objectif. Et à 17 ans, je l'étais déjà. Et à 18 ans, donc je suis en terminale. Et là, j'étais déjà en train de faire plein de choses. Je m'occupais de forums de discussion sur Internet. À l'époque, c'était tout tourné autour de la discussion. C'était peu, il n'y avait pas encore le web était en train de démarrer. Et je me retrouve en terminale, je me retrouve avec un vrai conflit. C'est-à-dire, d'un côté, je suis déjà en train de faire le boulot dont je rêvais, et d'un autre côté, je dois faire des études. Et là, il est arrivé une expérience, c'est que un jour, je suis au lycée, et un peu comme on vous l'a fait, vos directeurs vous l'ont fait pour cette occasion, on m'annonce, regardez, on a une surprise pour vous. Cet après-midi, on a invité des parents d'élèves de tous les métiers. Et vous allez pouvoir les rencontrer et échanger avec eux pour qu'ils puissent vous guider. Vous ne savez pas, vous, quel métier faire, vous ne savez pas quelle étude faire. Et on a invité des parents d'élèves de plein plein de métiers. Franchement, c'est une super idée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, je vous le conseille. Moi, j'ai trouvé que c'était une super idée. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, l'un de mes meilleurs amis à côté, un mec de ma bande, comment lève la main et fait « Monsieur, monsieur, on est obligé de venir ?» Je crois que j'ai entendu la même question tout à l'heure de quelqu'un tout à l'heure. « On est obligé de venir ?» Et le dire, enfin, c'était prof de maths qui dit, vous savez, on a fait ça pour vous, nous on n'a pas besoin, nous nos études on les a déjà passées, etc. On a organisé ça pour vous. Et donc, faites ce que vous voulez, mais voilà, on a fait ça pour vous, faites ce que vous voulez. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que ma bande de copains sont tous partis. Alors que moi j'avais trouvé que c'était une super idée, vraiment, de rencontrer des gens, des professionnels, etc. J'avais trouvé que c'était une super idée. Ma bande de copains est partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la bande de copains part, qu'est-ce qu'on fait nous? On suit la bande de copains. On réfléchit plus. On a le cerveau qui est éteint. On suit la meute. D'accord? Et à ce moment-là, je marche. Donc j'avais quoi? On avait 5 minutes de marche jusqu'au métro. Je descends dans le métro. Je mets mon ticket. Je rentre dans le métro. Et là, vous avez les portes du métro qui sonnent. Tut! Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je pars? Qu'est-ce que je vais faire chez moi là cet après-midi? Et je redescends du métro. Je remonte de ce métro-là. Je vais assister à cet événement. Effectivement, il y avait beaucoup de gens qui étaient restés, beaucoup de gens qui étaient partis. Et je rencontre il y avait une des personnes qui était invitée, c'était Ruth Elkrief, la journaliste. Et Ruth Elkrief, je vais la voir, je lui dis voilà, je vais être journaliste informatique, mais je suis déjà journaliste informatique, donc je fais quelles études, etc. Et elle me répond, bon, tu fais Sciences Po. je fais, mais Sciences Po, quel rapport? Il me fait, ah, tous les journalistes font Sciences Po. Bon, moi, ça ne m'a pas convenu comme réponse. Et à côté, j'attends, je vois un monsieur, Jean Guetta, informatique finance. Je lui dis, tiens, bon, bah, j'attends le monsieur, il était pas encore arrivé. Je dis, je vais attendre qu'il va arriver, ça va être intéressant, je vais lui parler. J'étais complètement perdu, perdu, perdu à ce moment-là. Et je vais voir ce monsieur Jean Guetta et je lui explique qui je suis et ce que je fais. Il me dit, voilà ma carte de visite, viens me voir. J'ai été le voir et ce monsieur est devenu mon associé, est devenu mon mentor, est devenu mon associé et a été la première personne qui m'a montré qu'un homme religieux, pratiquant de 100% des mitzvot, d'accord, le Shabbat, la cacheroute, l'étude, etc., etc., pouvait être un grand homme d'affaires. Ce monsieur Jean Guetta avait fondé une société en France qui s'appelait Sahari, qui était la plus grande société de logiciels de comptabilité, aujourd'hui qui a été rachetée, qui s'était fait racheter à cette époque-là en 96, 95, 96, s'était fait racheter par un groupe qui s'appelle Sage. Donc si vous allez sur le périph', vous voyez les gros logos Sage, Sage, c'est cette société. Et donc cet homme-là, Shomer Torah, Mitzvot, etc., il était devenu effectivement quelqu'un qui avait réussi en étant Shomer Torah, Mitzvot, et tout, voilà, effectivement, donc tout en réussissant, en étant dans le monde normal. Et moi, en fait, ça a été pour moi un déclic. J'ai dit, voilà, moi j'aimais beaucoup le judaïsme, j'aimais beaucoup. Mes parents, au départ, n'étaient pas Shomrim Shabbat, donc jusqu'à ma bar mitzvah, j'étais pas Shomer Shabbat. À ma bar mitzvah, je suis devenu Shomer Shabbat. Mes parents sont arrivés un an après, avec mon frère, etc. On a tous commencé à être Shomrim Shabbat, etc. On a commencé à évoluer, on aimait, en fait, cette vie juive, mais dans la tête, il y avait toujours un truc, bon. À l'école, à Or Yosef, à la synagogue, à ci, à ça, être juif, ça va, c'est bon, c'est comme ça, mais en dehors, bah, il va falloir faire des concessions. Quand on va devoir manger cachère avec un client, on ne va pas lui dire viens au resto cachère, on va lui dire tiens, on va prendre une petite salade ensemble, je vais prendre une petite salade, je vais prendre du poisson, comme le font en fait, comme l'ont fait nos parents, enfin beaucoup de nos parents, de grands-parents, etc., qui effectivement avaient un peu honte d'être juifs, c'est un peu ça un peu le sujet, avaient une certaine gêne à être juifs vis-à-vis des non-juifs, et en fait avaient en permanence, se sentaient réduits et se sentaient en position de faiblesse vis-à-vis de ce sujet-là. Moi je vois, j'ai vu quelqu'un qui effectivement n'était absolument jamais en position de faiblesse, et quand il allait voir, il avait un rendez-vous, il disait voilà, on se rencontre au restaurant, on se rencontre chez Nini, on se rencontre au Zelle, on se rencontre au truc, etc. Il parlait avec des gens n'importe qui. Donc ça a été mon déclic. Ça s'est fait, ce déclic-là a eu lieu à votre âge, d'accord? Quasiment même date, c'était le mois de mai, juste avant mon bac. À ce moment-là, effectivement, donc finalement, j'ai passé mon bac. J'ai pris une année sabbatique parce que je commençais à travailler, etc. Et je me dis, bon, je vais voir un peu ce que je vais faire, je ne savais pas où aller. Et bon, et là, j'ai 39 ans ce soir. Bon anniversaire, maintenant. Ah, merci, merci. Mais je voulais ça, hein, j'ai provoqué. Hein. Merci, merci. Voilà, donc 39 ans ce soir, et je suis encore dans cette année sabbatique qui n'a pas fini, puisque voilà, j'ai pas repris mes études, mais aujourd'hui j'enseigne à l'école centrale, j'enseigne aux mines, j'enseigne à la Polytechnique et j'enseigne partout. Et au Tsarotora aujourd'hui pour parler. Le sujet, c'est pas évidemment pas les études. Le vrai sujet, en fait, dont je voulais vous parler, c'est qu'est-ce que c'est être juif? Qu'est-ce que c'est être juif? C'est un sujet, quand même, vous avez fait des années de lycée et de, voilà, d'école juive, on devrait déjà le savoir. Ben moi, finalement, à la sortie de l'école juive, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Alors, il y a des juifs qui sont des lutteurs contre l'antisémitisme. C'est la plupart des juifs français, c'est en permanence. Notre problème, c'est quand on parle du mal d'Israël ou quand on parle mal des juifs. Donc en permanence, je vais lutter contre celui qui a dit ça, je vais lutter contre l'arabe qui est au bout de la rue qui nous a fait un mauvais clin d'œil. Je vais lutter, je vais lutter, je vais lutter contre des gens qui nous disent que nous ne sommes pas des gens spécialement bien, que ce sont des sales juifs ou des choses comme ça. Et donc je passe ma vie à lutter. Moi, personnellement, j'ai décidé d'avoir un judaïsme 100% positif. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que l'antisémitisme, je m'en fous complètement, mais presque. Ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, le problème en France et dans plusieurs pays du monde, c'est que les synagogues sont vides. Les synagogues sont vides le matin. Les synagogues, les Beth Amidrash sont pas tous remplis, ou il n'y en a pas assez. peu de gens étudient la Torah, beaucoup de gens abandonnent le Shabbat, des gens abandonnent la Kashrout, etc., etc. Ça y est, elles arrivent. Je vais reparler de mon anniversaire. Ah, elles n'ont pas le droit de chanter, donc non. Je résume et je rajoute quelques petites choses sur ce que je viens de dire pendant les 10 dernières minutes. On a dû commencer. Non, c'est mon anniversaire ce soir. Ce soir, ce soir. Ça y est, stop, stop. Bon, allez, on y va. Donc j'ai 39 ans ce soir. Merci. Donc moi j'ai étudié dans les écoles juives, j'étais à Yosef jusqu'en 3e, à Maïmonide jusqu'en terminale. Aujourd'hui pour mon parcours, je suis investisseur dans plus de 360 entreprises. J'étais l'associé de Xavier Niel pendant plus de 6 ans. Enfin on est toujours associés mais on ne travaille plus ensemble. Je conseille des grandes fortunes dans le monde et la deuxième fortune de Russie. Je conseille des grands groupes, des grosses entreprises. Une des trois plus grandes entreprises françaises, je conseille son PDG et ses patrons digitales. Et ce que j'expliquais, c'est effectivement en mai, juste avant mon bac, j'ai découvert une personne, un associé, qui a été celui qui m'a donné le déclic et qui m'a montré que je pouvais allier le judaïsme et le monde des affaires. Et de pouvoir en fait rester juif à l'extérieur de l'école et à l'extérieur de la synagogue. Donc en gros, j'arrive finalement, donc comme je l'ai dit, à 18 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai été journaliste, j'étais le plus jeune employé d'un groupe de presse informatique. Et je travaillais là-bas 3 jours par semaine et 2 jours par semaine, je travaillais pour une autre entreprise. Et à ce moment-là, j'arrive au travail et il faut manger kasher. Donc ce que font en général les juifs, comment est-ce qu'ils font? Ils en honte, ils amènent leur petit Tupperware, ils se mettent dans un coin et ils mangent comme ça doucement. D'accord? Ou en général, ils amènent un petit sandwich, etc. Beaucoup de juifs ont un peu honte de leur judaïsme, comme j'ai expliqué, en fait, sont en sentiment de faiblesse et donc arrivent dans une entreprise ou arrive à l'université, ou arrive à n'importe où avec une verblaise en disant « je vais pas dire que je mange kasher, je vais pas dire etc. » Moi, en fait, j'avais absolument aucun scrupule. J'avais rencontré quelqu'un qui avait réussi et qui ne fonctionnait pas comme ça. J'arrive donc avec mes amis non-juifs, avec mes collègues non-juifs dans mon centre. Et là, je leur dis « Hey, les amis, je dois manger kasher, qui vient avec moi ?» Ah, les gens me disent « Ah, super, j'en ai jamais mangé kasher, ça ressemble à quoi ?» Je suis bon, vous allez être déçus, ça ressemble beaucoup au reste. Et là, on a tous été au resto cachère. Donc, une fois, deux fois, troisième fois, non, je vais manger aujourd'hui au kebab, je vais manger aux autres trucs. Des fois, moi, j'étais pas là, j'étais absent du boulot, j'ai appris qu'ils allaient quand même manger au resto cachère sans moi. Parce que finalement, un resto cachère, c'est un resto. Et donc, il n'y avait absolument aucun problème d'aller, quand on était dans ce monde des affaires, on avait, là, avec des collègues, comme moi, j'ai amené ça extrêmement positivement, voilà, je dois manger cachère, ils m'ont tous suivi. La vraie clé, quand les gens commencent à travailler, les gens commencent à sortir de l'environnement, le cocon juif dans lequel on a vécu, dans les écoles juives, etc., la meilleure méthode que tout le monde conseille, c'est de prendre le judaïsme avec le sourire et de voir ça comme une médaille et une responsabilité, et pas de voir ça effectivement comme un sentiment de faiblesse. Il est important de savoir, enfin en général, quand on vit qu'est-ce que c'est être juif, on peut se dire, bah, le juif, c'est celui qui met ses tefilines tous les jours, qui va à la synagogue Shabbat, quand il a le temps, quand il se réveille. C'est celui qui va à Natania pendant l'été, c'est celui qui va, etc., etc. D'accord? On essaye de trouver un peu, voilà, en train de définir le juif en fonction de ce qu'on est, en fait, finalement, communauté française, etc. Et finalement, en fait, et donc effectivement, voilà, on allume nos bougies de Hanouka, on va manger dans la souka, on va faire notre prière le matin, etc. Et effectivement, tout ça, c'est effectivement une grosse partie du judaïsme. Ça s'appelle les mitzvot ben Adam lamakom, les mitzvot qui ont une relation entre l'homme et Dieu. D'accord? Dieu et Hachem, entre l'homme et Hachem. Ce sont des choses qui sont pas très, qui ont l'air d'un peu d'un culte comme ça. Les gens qui nous regardent de l'extérieur, ils disent bon, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi tu manges cachère? C'est quoi la différence entre du vin pas cachère, pas cachère? En plus, il y en a pas. Physiquement, il y en a pas. C'est quoi la différence entre une vache égorgée comme ça et une vache égorgée comme ça? Bon, les gens de l'extérieur ne comprennent pas trop strictement ce qu'on fait, donc ils voient ça comme une religion. Nous sommes une religion, c'est-à-dire que nous avons en fait comme les gens, on fait des choses un peu pas très logiques. Mais on nous a demandé de les faire, alors on les fait. Ça, effectivement, ça fait partie de la Torah, mais je ne vais pas parler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, même si je vais parler du Shabbat après, mais le vrai... J'ai un peu perdu le fil. Le vrai sujet dont je vais vous parler, moi, aujourd'hui, c'est le sujet de Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire qu'une grosse partie des mitzvot de la Torah concerne sa relation, la relation entre hommes. La relation entre hommes, c'est quoi? Ce sont des halakhot, des lois, qui font partie du même Shulchan Aruch qui vous dit de mettre votre tefilin, qui vous dit de faire votre tefila le matin, qui vous dit de faire Netilat Yadayim, etc., etc., et qui vous dit d'allumer vos bougies de Hanouka et de manger des matzot Pessah. Il y a en fait dans le Shulchan Aruch, vous avez quatre parties, et une des parties s'appelle Choshen Mishpat, et Choshen Mishpat, c'est une partie qui parle uniquement de sujets matériels. Ce sont la relation entre les hommes. Donc, dans Choshen Mishpat, on va vous apprendre comment, par exemple, si vous êtes un vendeur, comment fixer les prix de vos produits. D'accord? On est trois épiciers dans la même rue, on vend exactement les mêmes produits, on s'adresse à un public juif. Sur ce cas précis, il y a une différence avec les non-juifs. Y a effectivement des règles qui empêchent à l'un de vendre beaucoup plus cher si l'autre n'est pas au courant. Ils vendent le même produit, la même canette de Coca, l'un le vend à 1 euro, l'autre le vend à 1 euro 1, et moi je n'ai pas le droit de le vendre à 2 euros. D'accord? Ça s'appelle les règles de Onna. On dit, ah tiens, incroyable, ça fait partie de la Torah ça? On dit, ah peut-être c'est caché, c'est un petit mot dans la Torah, on en a fait un gros truc. Et là, on lit la Torah. Prenons la Torah. On a dans la Torah, on a la paracha Tithro. La paracha Tithro, c'est la paracha dans laquelle les 10 commandements sont cités. Donc, Moshe Rabbeinu arrive la semaine prochaine, on a Shavuot, on va fêter le moment où Hachem a commencé à parler, à transmettre les 10 commandements au peuple d'Israël. Effectivement, donc il y a 10 commandements. À l'intérieur, il y a « tu ne voleras point », donc effectivement, c'est un lien avec les autres. Il y a « tu ne tueras pas », c'est aussi un lien avec les autres. Et il y a le Shabbat, etc., etc., comme vous savez. Immédiatement après la paracha Tithro, on n'est pas en train de nous parler « mets tes tefilines ». Fais ta tefila, fais les fêtes. Immédiatement, on passe de la paracha Tithro à la paracha Mishpatim. La paracha Mishpatim, collée à la paracha Tithro, et les commentateurs ici, Rachid, etc., disent que tout ça a été donné au même moment que les 10 commandements sur le Har-Sinaï, parle de sujets matériels. La première loi, si tu as un serviteur juif, et il y a des règles vis-à-vis du serviteur juif et du serviteur juif, enfin, on pouvait appeler ça esclave à l'époque, en gros, tu ne pourras pas le garder plus de 7 ans. Et en gros, les règles, c'est si tu as un coussin... si tu as un coussin plus moelleux que le tien, tu dois lui donner ton coussin. Quoi déjà, attends, vous voyez les amis, je sais pas, il y en a qui ont vu des films et qui voient Moïse qui descend, illuminé, il a parlé à Dieu, etc. Et il arrive, il commence à te parler de trucs matériels. Bon. Après ça, on commence à parler des lois du prêteur. Si moi je donne à mon ami, je lui demande de me garder mon cartable, et que le cartable, finalement, il se le fait piquer, qui est responsable? D'accord? Si c'est lui qui m'a dit, tiens, prête-moi un bouquin, et il se le fait piquer, qui est responsable? Il y a 4 catégories de gardes, et là, ça rentre ça. Et tous ces sujets-là, d'accord? Il y a, alors, les autres sujets dont on parle immédiatement, c'est le prêt-intérêt. On n'a pas le droit de prêter intérêt à un non-juif. Un autre sujet, c'est que tu dois payer ton salarié à temps. Quand tu as un prestataire, quelqu'un qui prend une babysitter à la maison, doit payer la babysitter avant la tombée de la nuit. Si elle a fini son travail avant la nuit, et si c'est après la nuit, jusqu'au demain matin. D'accord? Immédiatement, on est en train de parler de lois qui sont des halakhot aussi importantes que l'ensemble des halakhot qu'on a de Hanouka, des Tfilin, etc., dadada, qui sont nos liens avec Hachem, et qui sont des halakhot qui font partie de notre vie de tous les jours, qui vont aller réglementer même la manière dont on peut aller acheter chez un épicier. Par exemple, chez un épicier, si nous, on a appris, par exemple, que la canette de coca était passée maintenant de 2 euros et elle est passée à 5 euros, et que lui continue à la vendre à 2 euros, et on se rend compte qu'il n'est pas au courant qu'il y a eu l'augmentation, d'accord, il faut qu'il y ait une bonne raison, etc. Bon, je prends un exemple. On doit lui dire. On n'a pas le droit, nous non plus, de profiter d'un prix bas si le prix normal n'est plus ce prix-là. Ça aussi, ça fait partie de l'intérêt de l'art. Donc, on peut se retrouver en permanence à n'importe quel moment de notre vie. On peut se retrouver dans des... Enfin, pas on peut se retrouver. On se retrouve en permanence dans des situations où on doit accomplir des mitzvot. On doit accomplir son judaïsme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, quand on a ça... Alors, avant que je continue, mais un autre exemple. Donc, moi, je vais expliquer la proximité de la parashat Mishpatim à la parashat Yitro. Donc, les 10 commandements, directement, on parle de ces sujets. Et après, on parle de Sukkot, Shavuot, Pessah, etc. Mais d'un autre côté... On a aussi le Beth Amikdash. Vous avez tous été au Kotel un jour, en tout cas une grande partie d'entre vous, je suppose. Même Donald Trump a été hier. Et donc, on va au Kotel et on imagine effectivement ce qu'il y a au Kotel. Derrière, il y avait le temple. Qu'est-ce qu'il y avait dans le temple? Il y avait les Kohanim qui faisaient des sacrifices tous les jours, qui est un vrai sujet. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est ces sacrifices. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et effectivement, le Kohen Gadol, le grand prêtre, qui allait chaque année à Yom Kippour, qui allait demander pardon pour le peuple d'Israël. D'accord? Mais tous les jours en permanence, il y avait un service là-bas, des sacrifices, il se passait des choses un peu bizarres, un rite qu'on ne comprend pas, nous, aujourd'hui, avec notre vision un peu terre-à-terre. Mais on oublie en permanence, quand on va au Kotel, que derrière ce Kotel, dans les endroits, au l'endroit où il y avait le Beth Amikdash, il y avait le grand Sanhedrin. Le grand Sanhedrin, c'est 71 sages, 71 Talmidei Chachamim, les plus grands sages d'Israël, qui étaient donc un grand tribunal, qui étaient assis là et qui allaient nommer l'ensemble des juges d'Israël et qui allaient aussi régler leur rôle, c'était de nommer les juges d'Israël, aussi de régler les problèmes que les petits tribunaux, les plus petits tribunaux n'arrivaient pas à régler, mais en gros... Ces gens-là étaient à côté du Kodesh à Kodashim, étaient en train de régler des problèmes de tous les jours. C'est j'ai donné à garder ma vache, il a mal gardé, elle est tombée dans un puits et elle a cassé le truc du voisin de l'autre. L'autre il me dit comme c'est ta vache, tu dois me payer. On est dans des trucs comme ça. Et là ils arrivent, on est au Sanhedrin. Quoi, quand vous allez au Kotel, vous êtes en train de penser que derrière le mur avant, il y avait un centre de justice, il y avait un tribunal. Pense pas à ça. Moi je pensais pas à ça. Moi, j'imaginais un truc, un peu, une grande belle synagogue, quoi, avec du marbre, avec des beaux kélim en or, la menorah, etc. Ouais, il y a ça. Mais il y a en plus quelque chose, en plus, il y a au même niveau, quelque chose qui régit ce qu'on appelle, comme j'ai expliqué, le Ben Adam, la Chavero, la relation avec les autres. Il y a un tribunal, parce qu'on a besoin chez les Juifs d'avoir une relation avec Dieu et avoir une relation parfaite avec les autres. Et avec les autres, c'est juifs et non-juifs. Donc ça, c'est pour vous montrer en fait que le Beth Amikdash, qui est le plus grand centre du peuple, la Parashat Yitro, qui est l'endroit où on donne les 10 commandements, voilà, et en fait, aussi le Shulchan Aruch qui donne les lois, on voit qu'il y a en fait des centaines et des centaines de pages de sujets qui traitent du monde en dehors de la synagogue. En dehors de la synagogue. La halakha est même en train d'expliquer comment on doit marcher dans la rue. La manière dont on doit parler. Poster au maximum. Shtika. Le Rambam dit que la plus importante, c'est de se taire. On doit parler le moins possible. Le moins possible est toujours avec Chochma. On parle le matin, dans la halakha, intérieure, on nous dit, je ne sais pas si vous savez, qu'on nous dit comment attacher nos chaussures. Le fait de, quand on sort des toilettes, on doit effectivement faire une bracha. Quand on se lève le matin, on fait plein de brachot. Zokef kefufim, je me lève, etc., etc. Finalement, à chaque seconde de ma vie, je dois vivre mon judaïsme. Je dois vivre mon judaïsme. Je dois faire attention au lashon hara que je peux dire. Je dois faire attention aux mauvais mots que je peux sortir de ma bouche. Aujourd'hui, on a Facebook. Enfin, j'ai plus Facebook depuis 5 ans maintenant. J'avais 4993 amis. J'étais à la limite presque. Et j'ai abandonné Facebook, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on en parlera à la fin. Et en fait, on avait un énorme problème. On a un énorme problème quand on est maintenant les réseaux sociaux, les WhatsApp & Co. C'est qu'en fait, on a par exemple un énorme problème, c'est le problème du lashon hara. Alors on dit, c'est pas beau de faire du lashon hara, d'accord? C'est pas beau de dire du mal de trucs. Le lashon hara, pour le Chafetz Chaim, Katie Yarol, il dit que c'est la raison pour laquelle le Beth Amikdash aujourd'hui n'est pas reconstruit. C'est la raison principale pour laquelle il y a de la haine entre les juifs aujourd'hui. Et c'est cette haine-là et cette non-unité qui fait le problème. Aujourd'hui, on est sur Facebook, on poste quelque chose qui dit du mal de quelqu'un, on est à la fois en enfreint de la lashon hara, on enfreint... Continue. J'attends. Bon anniversaire, vous voyez. Donc, je reprends, on continue. Donc quand on parle sur Facebook, à la fois, et qu'on dit du mal de quelqu'un, à la fois on enfreint l'interdit de la lashon hara, qui est un des plus graves, on atteint l'interdit de la lashon hara berabim, c'est-à-dire en public, donc on dit du mal pas uniquement à une personne, mais on dit ça devant beaucoup de monde, et on interdit un interdit encore plus grave, c'est qu'on fait du lashon hara devant des non-juifs. Qui est un énorme Chilou Lachem. Les non-juifs voient qu'un juif est en train de dire du mal d'un autre. Pour aucune raison, on a le droit de le faire. Enfin, il y a des raisons très précises, mais je ne vous les dirai pas, parce qu'il faut, pour vous, vous devez dire que c'est aucune. Mais on ne peut pas dire du mal d'un juif devant un non-juif. Et quand on est aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on contrôle absolument rien. On contrôle, on poste, etc. Donc on va dire, mais tout le monde le fait, les journaux passent leur journée à faire du lashon hara, à dire du mal de Macron, à dire du mal de Le Pen, à dire du mal de trucs. C'est ça le monde, c'est pas grave, on est là pour commenter les gens, etc. Nous, on a un interdit, effectivement, c'est de la lashon hara. Donc, pour vous dire qu'à n'importe quel moment de notre journée, à n'importe quel moment, effectivement, on a ce problème. La synagogue, d'accord? À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert d'aller à la synagogue? On pourrait se dire, si quand je vais à la synagogue, Dieu est content. Il est content que j'aille à la synagogue parce que, voilà, je fais ce qu'il m'a dit de faire. Donc il est content, super, je fais plaisir à Dieu en allant à la synagogue. Ou alors je vais effectivement, alors certaines fois je vais demander des choses, j'ai des besoins personnels, donc je vais effectivement dans ma amida, je demande des choses, et je demande la santé, si Razéchar, on peut avoir un problème de santé, je demande des choses, etc. Mais en fait la synagogue, on a un problème avec la synagogue chez les juifs, depuis 100 ans. Quand les gens sortent de la synagogue, ils enlèvent leur kippa et la mettent dans la poche. Pourquoi on enlève notre kippa et la met dans la poche? Ça veut dire quoi? Ce geste-là, alors vous avez la chance, les filles, il n'y a pas de problème de kippa, mais ça veut dire quoi d'enlever la kippa et le mettre dans la poche? Ça veut dire, ça y est, je sors de ce lieu saint qui s'appelle la synagogue. Maintenant, je vais dehors, je vis ma vie. On est à l'extérieur, c'est plus un lieu saint. Il y a Dieu et et on sait qu'il est là et tout, mais il est plus à la synagogue. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on doit prier, etc. Ça, c'est l'erreur. C'est l'erreur qu'on a beaucoup fait. Alors, beaucoup ont enlevé leur kippa de peur. Il y a 100 ans, ils avaient peur, des fois, de racisme. Beaucoup ont fait ça pour s'assimiler, etc. Mais nous, aujourd'hui, on le fait ça, des fois. Moi, je connais des gens de mon entourage, de ma famille, etc., qui enlèvent leur kippa en sortant de la synagogue, alors qu'ils sont en Israël, qui n'ont absolument aucun problème d'antisémitisme, qui n'ont aucun problème de rien. Ces gens, voilà, on est sortis, on n'est plus à la synagogue. Et ça, c'est la grande erreur. Le fait d'enlever sa kippa ou pas kippa, moi j'ai une casquette quand je suis à Paris, d'accord ? À l'étranger, partout dans le monde, je suis en kippa, à Londres, aux États-Unis, mais à Paris, on va rester tranquille. Et en fait, l'erreur, c'est de penser qu'il y a la synagogue et le reste. Qu'à l'extérieur, on n'a rien à faire de particulier. En fait, la synagogue, à quoi elle sert ? 3 fois par jour. Vous voulez poser une question ? Ça, c'est une question de savoir pourquoi déjà tu ne veux pas porter la kippa. Et moi, je ne porte pas la kippa. Moi, je ne porte pas la kippa quand je suis dans le métro. Je porte une casquette. D'accord ? Donc, normalement, on ne peut pas prononcer de brachot quand on n'a pas de kippa sur la tête. Ah, il y a un autre groupe qui arrive. On ne peut pas prononcer de brachot. Et je ne sais pas si vous étudiez la halakhot de brachot, il y a beaucoup de bénédictions qu'on doit faire en permanence. D'accord ? Vous êtes avec votre coca, effectivement, si vous buvez, il faut faire une bracha avant, il faut faire une bracha après. Enfin, sur le coca, ce n'est pas évident qu'on va faire après. On va prendre un verre d'eau, on va rentrer dans les sujets. Vous sentez une bonne odeur, vous passez dans la rue, vous passez devant un bel arbre avec une belle odeur, vous devez faire une bracha. D'accord ? Il y a plein de moments où on doit faire des brachot. Donc effectivement, on doit avoir la tête couverte à ce moment-là. Ce que j'explique, c'est que finalement, la synagogue, on a une mauvaise idée. Une mauvaise idée, parce qu'on a une mauvaise idée de Dieu. Comment fonctionnaient les dieux ? Comment en fait les dieux étaient représentés dans la mythologie grecque et romaine ? C'était donc des statues ou des noms, d'accord ? Et c'était des gens, des statues à qui on amenait des petits cadeaux. Donc on venait servir le dieu. Donc c'est quoi le servir le dieu ? On amenait un peu de concombre tomate, hop ! On amenait des petites bananes, comme le font aujourd'hui encore les pays en Asie. Ils sont encore en train d'amener des petits cadeaux au dieu, d'accord ? Et on dit, voilà, si on lui amène des cadeaux, hop, il nous rendra ce qu'il faut. Le dieu de la guerre, il va nous faire gagner la guerre. Le dieu de la pluie, il va nous faire gagner la pluie, etc., etc. Nous, dans le judaïsme, on n'a absolument pas cette notion de faire des cadeaux à Dieu. Donc, on ne rentre pas dans le sujet des sacrifices, parce que le sujet des sacrifices, ce n'est pas ça. D'accord ? Le Rambam m'explique bien que ce n'est pas ce sujet. Et on n'est pas là pour faire des cadeaux à Dieu, parce que Dieu n'a besoin, dans le judaïsme, on dit que Dieu est un, Dieu n'a besoin de rien. Dieu n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin qu'on lui offre, lui fasse des cadeaux, etc. Dieu a déjà tout. Dieu a tout. Donc si on arrive comme ça, alors pourquoi je vais aller à la synagogue ? J'ai pas besoin finalement, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi s'il a tout. Et en fait, là, l'erreur, c'est de penser qu'on est en train de faire ça parce que pour Dieu. Oui, on fait ça parce que Dieu nous l'a demandé, parce qu'Hachem nous l'a demandé, mais quand on va à la synagogue, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de se rappeler que Dieu est en train et dirige le monde. Quand on est en train de dire « Hachem, c'est toi qui dois nous guérir. Hachem, donne-nous la parnassa. Hachem, donne-nous pardonne-nous. Hachem, donne-nous l'intelligence. Atachonel adam da'at. » D'accord ? Vous allez passer votre bac là, cette année. Je crois qu'il y avait des premières aussi, donc effectivement, au bac français, etc. Vous êtes en train de passer votre truc. Vous devez prier le matin dans Atachonel Adam Da'at. Vous dites, c'est toi, Dieu, qui m'amène la connaissance. Évidemment, vous ne pouvez pas ne rien faire et vous dire, Dieu, envoie-moi une sagesse comme ça. Non, mais l'intelligence, la chorma, la da'at, etc., ça vient de Dieu. Et ça, en fait, quand on va à la synagogue, ça sert à quoi ? Ça sert à aller se resynchroniser avec Hachem. Aller se rappeler. Quand on comprend, on étudie Attila, on va se rappeler que c'est Hachem qui contrôle tout dans notre vie. Tout dans notre vie est contrôlé par Hachem. Tous les événements qui vont vous arriver seconde après seconde dans votre vie, sont contrôlés avec HM et sont personnalisés spécialement pour vous. Pour chacun d'entre vous différemment. De la même manière que chacun en a un visage différent, de la même manière on a chacun un rôle différent sur cette terre, on va avoir une histoire différente, on va avoir des épreuves différentes, on va avoir plein de choses de manière différente. Et on a HM qui nous envoie toute notre vie, toutes les secondes, un parcours personnalisé. Donc, la synagogue, ça sert à ça. Ça sert à se rappeler à quel point HM contrôle tout. C'est à lui qu'on doit demander les choses. Ce n'est pas à notre patron qu'on doit demander une augmentation. On peut le faire, effectivement, de manière posée, etc. Mais l'augmentation, la parnassa, effectivement, tout ce qu'on peut avoir, dont on a besoin dans ce monde, on la demande à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on sait que c'est lui qui donne ça. Alors vous allez me dire, bon, ok, donc HM fait tout, et moi je dois faire quoi alors? Moi je dois faire quoi? Et là vous avez une Gemara, dans Maseret Nida, qui dit comme ça. Il existe un ange qui s'appelle Laila. Cet ange est dédié aux grossesses. Je traduis la Gemara. Cet ange est dédié au Hérayon, aux grossesses. Avant la naissance de n'importe quel être humain, il amène la goutte, le fœtus devant Hachem, et il pose trois questions. Il dit, est-ce qu'il va être Chacham ou Tipesh? Est-ce que cette personne-là qui va naître va être intelligente ou bête? Est-ce qu'il va être Gibor ou Chalash? Est-ce qu'il va être fort ou faible? Il y a des forts, je vois devant moi, il y a des gens musclés, il y a des gens plus guingalés comme moi. D'accord, bon, j'ai un peu grossi. J'étais nul en sport. Moi j'étais le dernier, on voulait pas me choisir dans l'équipe de foot, j'étais le dernier. Et même quand j'étais le dernier, on me disait non, mais c'est pas la peine, vaut mieux que tu restes sur le côté. Voilà, juste pour vous dire. Donc voilà, moi j'étais dans le halal. Ça arrive. Donc je reprends les trois questions. Gibor au halal, fort ou faible? Chacham au tipesh, intelligent ou bête, Ashir ou Ani, riche ou pauvre. Les trois questions qui sont demandées à Hachem avant notre naissance, c'est comment va être cette personne dans la vie? Quoi? Déjà, riche ou pauvre? Pas qu'il a déjà, il a que 3 ans. On dit, les mères juives veulent que leur enfant soit médecin quand il a déjà 2 ans ou au landau. D'accord? Là, avant même la naissance, on sait déjà s'il va être riche. Mon fils va être milliardaire. Ça a été défini avant la naissance. Et la Gemara pose une question. Elle dit, mais... Et Tzadik ou Racha, il n'y a pas une question? On ne demande pas s'il va être Tzadik ou Racha. Et là, la Gemara répond, « Akol kede Rabbi Chanina, amar Rabbi Chanina, akol bide shamaim, chutz mirat shamaim. » Tout vient du ciel. Tous les sujets dont je viens vous parler, l'intelligence, la force et la fortune, chutz mirat shamaim, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi la crainte du ciel? Ça veut dire quoi la crainte du ciel? Dans la vie, on a en permanence des choix à faire. Ça va être par exemple, est-ce que maintenant je vais parler au lieu d'écouter, par exemple? Ou ça va être, est-ce que effectivement je vais sécher le cours ou est-ce que je vais copier sur le cours d'à côté? Sur le contrôle d'à côté. On n'a pas le droit de copier selon la halakha, attention. C'est un psak à la fin, hein. Faites gaffe. La seule chose que l'on a à faire dans notre vie, imaginez que vous êtes dans des rails, en permanence vous allez avoir pas à droite et à gauche, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est de choisir le bien ou le mal. Le bien ou le mal. Le bien ou le mal. Quand vous allez vous marier, c'est Karov, je vous le souhaite le plus tôt possible, à tous, hein. Et on n'y pense pas à cet âge-là, hein, mais ça vient vite, hein, je peux vous dire. Voilà. Ah, si vous y pensez. Ah. Baruch HaShem. Non, franchement, on a encore une chance. Il y a des intéressés. C'est qui? On reprend. On a de la chance chez les juifs d'encore donner de la valeur à ces choses-là, la valeur au mariage, la valeur à ces choses-là. Dans le monde à l'extérieur, toutes ces choses-là ont été complètement perdues. Les gens arrivent à 37 ans, ils se disent « Oh, ce serait bien que je me marie. » Donc, en fait, on va avoir en permanence des choix à faire. Donc, à un moment, on va, par exemple, quand on va devoir choisir sa femme, on peut choisir la bombe, super truc, etc. Bon, je vais pas faire de description, c'est dommage. Et on peut choisir la fille avec des bonnes midotes, etc. On peut avoir les deux, hein. On peut avoir la bombe et les bonnes midotes. Ma femme, bien sûr, j'ai déjà prise. Faut prier, faut prier. Faut démarrer vite, hein. Je ne vous l'ai pas dit. Un truc que je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai 13 enfants, Baruch HaShem. Ouais. Le plus grand a 15 ans. Donc, bon. Là, je ne suis pas votre femme, donc je ne peux pas m'occuper de mettre le silence, mais. Enfin, j'ai pas le G, on a fait à deux. Hein. Donc, en gros, précisément, dans notre vie, on va avoir en permanence, à n'importe quelle seconde de notre vie, on va avoir des choix à faire, de faire bien ou mal. Bien ou mal, ce n'est pas quelque chose qu'on doit décider avec son cœur. Enfin, certaines fois, oui, on peut penser, on peut sentir un peu les choses. Mais on doit faire le bien ou mal. On y va ? Moi, je m'arrête. Bien ou mal, on peut penser avec son cœur, mais bien ou mal, pour comprendre ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, il faut étudier la Torah. C'est très clair. Moi, j'habite à Bnei Brak, d'accord, j'habite dans une ville orthodoxe. J'étais donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu ma première société à 19 ans, à 21 ans, j'avais 50 salariés, d'accord, j'étais le plus jeune. Pas facile. Hein. En 2004, j'ai vendu ma boîte et mon appartement le même jour. J'étais marié avec 2 enfants et demi. À ce moment-là, l'ennemi il était là, vous avez compris. Les deux sont passés, j'ai vendu la société et mon appartement le même jour. Je vais voir ma femme, je dis bon, bah, on peut faire ce qu'on veut. On a fait notre alliance, on a pris le billet d'avion, on n'a même pas dit à personne, l'agent juif, etc. On s'est installé à Ranana pendant 3 ans. Et très très vite, en fait, moi mon but c'était d'étudier à ce moment-là, d'étudier à plein temps. Très très vite, par concours de circonstances, à un moment Google a voulu racheter ma boîte pour que je co-dirige Google Haifa et que je m'occupe des développements. Google Haifa, en fait, à Google en Israël, il y a Google Tel Aviv qui s'occupe du marché local israélien et Google Haifa qui développe par exemple Google Suggest, que vous avez un moteur de recherche. Et voilà, donc je devais faire partie de cette équipe, ça s'est pas fait, il y a eu plein de choses, etc. Finalement, j'ai lancé Kima Ventures avec Xavier Niel, donc j'ai fondé le fonds d'investissement avec Xavier Niel. Mais pendant ce temps-là, je me suis installé à Bnei Brak. Mes enfants sont en yeshiva. J'étudie 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour, en fonction du temps. Je commence à étudier à 4h30 du matin. Vous êtes à Midrash. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. Ça, c'est un moment quand on a la pêche. 4h30 du matin, on est 400 bêtes à Midrash. 4h30 du matin. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Si un jour vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, vous n'êtes pas encore couché en vacances, je peux vous amener voir. Venez prier avec nous. On est 400, on étudie et on prie au milieu, donc de 4h30 à 4h30 à 7h. Après, on réétudie et on travaille. Et pendant notre travail, on a des questions de halakha, donc on est obligé d'ouvrir des livres et de dire, effectivement, est-ce que le contrat, il n'y a pas un problème de pré-intérêt ? Je suis en train d'investir dans une société. Elle est dirigée par un non-juif, mais elle travaille Shabbat. Mais si je deviens investisseur, donc je vais avoir des revenus provenant de Shabbat. Et en gros, on rentre en permanence dans plein de questions. Mes commerciaux peuvent dire, bon, est-ce que je peux quand même un peu pipoter au client et lui dire que le produit fait ça, alors que bon, de toute façon, il ne le fait pas encore, il le fera un jour. Est-ce que si, et tout ça, ça vous imaginez la réponse. Mais il y a plein de questions. Là, je viens d'avoir un déjeuner avec plusieurs personnes qui ont 4-5 ans de plus que vous. et qui viennent de rentrer dans le monde professionnel, je les ai rendus fous avec tous les problèmes. Ils pensaient qu'ils étaient bien, des bons juifs, Shabbat, Kashrout, etc. Ils étudiaient, etc. Et j'aurais rentré le nombre de problèmes. Un est banquier, et il me dit, bah, avec ce que tu es en train de dire, je suis un voleur du matin au soir. L'autre est audioprothésiste, pareil, plein de problèmes, etc., etc. Et bien, au Rajam, le but, c'est pas de poser des problèmes. Le but, c'est d'avoir des solutions et de savoir comment faire les choses. Et faire les choses, c'est faire les choses bien, c'est faire ça avec une droiture, avec une honnêteté et avec, effectivement, suivre les lois de la Torah. Je passe un peu pour passer à la suite. Une seconde. Donc, comme j'ai expliqué, il est important de comprendre qu'on doit être juif à n'importe quel moment de sa vie. Et c'est très important. On ne doit pas en permanence se penser à l'antisémite qui est à côté. Évidemment, on doit y penser, on doit faire attention à bien se comporter devant lui. Et effectivement, à essayer de faire du Kiddush Hashem. Et à ne pas se dire, de toute façon, il ne m'aime pas. Non, non, non. Moi, je peux vous dire. Donc, je ne sais pas si on vous l'a dit, je suis proche d'Emmanuel Macron. Je conseille Emmanuel Macron. Hier, j'étais au ministre de nouveau ministère, Mounir Majoubi, qui se présente au député du 19e. Je suis son investisseur de sa précédente boîte et on est très proches. Je conseille des grandes entreprises, des non-juives, etc. Quand j'arrive, j'arrive en kippa. Les gens savent très bien que je mange kasher. J'étais proche de Valérie Pécresse, qui est quoi aujourd'hui? Ministre de. Je sais pas. Elle était ministre de l'Éducation il n'y a pas longtemps. Conseil d'Île-de-France, je crois. Valérie Pécresse, dans les années 2000, je l'amenais manger. Elle a travaillé, elle était conseillère de Jacques Chirac, l'ancien président. On déjeunait ensemble au Ciné de Chita à côté, qui était un restaurant cachère, etc. Et elle a tellement aimé le restaurant cachère qu'elle revenait effectivement avec ses collègues non juifs, effectivement, au fur et à mesure. C'est-à-dire que finalement, dans le monde non juif, les gens, si vous êtes rigoureux, et rigoureux, ça va de tout, d'accord? La manière dont vous vous habillez. Il faut se sentir, nous sommes des princes. Nous, on fait partie de la dynastie royale. C'est ça le judaïsme. Les juifs, on fait partie de la plus grande famille de toute l'humanité. On fait attention à comment on s'habille. On fait attention à comment on parle. On fait attention à comment on marche. On fait attention au bruit qu'on fait quand on est dans le métro. À pas trop se faire remarquer. Alors oui, on a le droit de rigoler, on a le droit de faire des blagues, etc. Mais faire attention au respect. Faire attention à pas basculer la vieille dame qui est à côté. L'aider, proposer. À n'importe quel moment, on a les occasions de faire du Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, qui est la plus grande mitzvah de toute la Torah. Et à l'envers, le Chilul Hashem est la seule mitzvah qui n'est pas pardonnée à Kippour. D'accord? Le Kiddush Hashem, c'est de montrer à l'extérieur, aux non-juifs ou aux non-pratiquants, de montrer que le judaïsme, c'est la plus belle chose qui peut exister. Ah, c'est ça le peuple de Dieu. Je vais vous raconter des belles histoires. En 2000, donc moi j'étais en 2000, c'était l'année où Internet a explosé, d'accord? On appelait ça la bulle Internet tellement il y avait plein de boîtes qui se créaient, etc., etc. Et moi j'étais la mascotte de ce secteur. J'étais le Bill Gates français, les journaux, j'étais dans tous les journaux, envoyé spécial, je passais en direct sur France 2, etc. C'était la folie. Et en 2000. Mon assistante à l'époque reçoit un coup de fil. Bonjour, c'est le chef de cabinet du ministre de l'Industrie suédois, du ministère de l'Industrie suédois. On voudrait inviter Monsieur Bérébi à dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européens. Pas si vous imaginez le truc. Donc, un ministre, c'est déjà pas mal. J'avais 20 ans, hein, 20, 21 ans. Un ministre, c'est déjà pas mal. Là, on me dit, on veut rencontrer, les 12 ministres européens veulent rencontrer Jérémy Bérébi. Voilà, on invite trois entrepreneurs d'Europe. Et voilà. Et moi, en fait, à l'époque, j'étais avec très proche donc, de plein de déjà de politiciens, des premiers ministres, des présidents, etc. Et je n'étais pas spécialement chaud, finalement, de ça. Je me dis, bon, ça va. Je ne sais pas, j'étais un peu fou aussi, quoi. Voilà, j'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et à ce moment-là, je dis à mon assistante, je dis, regarde, dis-leur que je mange cachère. De toute façon, je ne me vois pas les regarder pendant tout le repas. Et là, le chef de cabinet répond, aucun problème, monsieur Bérébi, est-ce que vous avez un numéro de fax? Vous savez ce que c'est un fax? Ouais, ah, ça existe encore. Vous avez un numéro de fax? Donc on donne le numéro de fax, on ne sait pas ce qu'on va recevoir par fax. Je reçois la liste de tous les Herschérim de Kashrout d'Europe. choisissez la cache-route que vous voulez. Quoi ? À Bruxelles ? Au Parlement européen ? Oh oui, choisissez la cache-route. J'avais choisi la cache-route de Strasbourg à l'époque. Et bon, alors là, on ne peut plus refuser. On vous fait cet honneur, on vous envoie la cache-route, etc. Bon. J'arrive là-bas, j'arrive, on m'accueille, j'arrive dans une grande suite. On tape à ma porte, monsieur, votre voiture arrive en bas, on vous amène au Parlement, etc. J'arrive dans une salle et on arrive dans une salle qui fait presque quasiment exactement cette taille, avec une immense table au milieu. Mais par contre, elle fait trois fois la hauteur, puisqu'en fait, en haut, il y avait des petits aquariums, des bocaux, où il y avait les traducteurs. En fait, parce que les ministres, voilà, il y a un petit orgueil comme ça, chacun parle dans sa langue. Au lieu de se parler anglais entre eux, alors qu'ils parlent presque tous anglais, ils se parlent chacun dans leur langue au Parlement européen. Et il y a des traducteurs qui traduisent en temps réel. Donc, en fait, on avait le dîner avec des gens qui nous regardaient tout autour. Et là, vous avez les serveurs qui sont en train de me regarder comme ça. Et là, ils arrivent vers moi et disent « Bon, je pense que c'est pour vous le repas cachère. On vous l'ouvre ?» Je fais « Non, amenez-le comme ça. On vous le chauffe ?»« Non, amenez-le comme ça. » Bon, d'accord. Ils m'amènent le plateau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les avions, le plateau est amené sur un film plastique qui est très dur, très très dur. Donc moi, déjà, ils me servent en premier, devant tous les ministres, qui n'étaient pas tous au courant, j'étais en train de manger cachère. Ils me servent en premier, et ils me servent avec un gros film plastique dessus, et le couteau est à l'intérieur, évidemment. Donc je ne peux pas ouvrir. Et donc là, je commence à faire avec mon doigt, je vais tic, 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 et la salle était immense, donc était haute, le plafond était haut, un écho énorme. Et là, donc les gens, alors j'essaie de faire doucement... Et tout le monde entend, on se retourne et tout, et ça passe, c'est ça. Bon, même si j'étais servi en premier, j'ai attendu que tout le monde soit servi, évidemment, pour essayer d'ouvrir mon plat. Et là, il y a une femme devant moi qui me dit, c'était la ministre de l'Industrie finlandaise, quelque chose comme ça. Une blonde. Non, c'est finlandaise. Non, blonde. Blonde, vraiment blonde. Et... Je vais vexer personne. Non, c'est vraiment... J'ai pas entendu. Bon, désolé. Bon, en tout cas, elle était vraiment bon, donc elle était ministre des pays nordiques. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Alors je lui dis, je mange cachère. Et elle me dit, moi aussi je devrais. Et après, elle est venue me parler. En fait, elle est juive elle-même. Et évidemment, elle mange pas cachère. Et elle était, voilà, admirative que je mange cachère. Et là, à ce moment-là, je voyais les étoiles. Pourquoi je voyais les étoiles ? Parce que j'étais en train de ressentir que j'étais en train de vivre mon rôle de juif. À ce moment-là, le choix que j'avais à faire quand je me retrouvais face à ces ministres, c'était pas de me trouver des excuses, c'était de manger cachère, point final. Et aucun ministre autour de la table ne me reprochait, ils m'ont aidé à faire ça. Un autre exemple que je vais vous donner. Il y a quelques années, je conseillais une entreprise et on avait un salarié de l'entreprise. Et le salarié, on arrive le dernier jour du mois et donc il faut envoyer le salaire au salarié. Je parle avec l'assistante là-bas et je dis, l'assistante qui est une chrétienne avec une petite croix là, et elle me dit, je lui dis, voilà, il ne faut pas oublier de payer aujourd'hui. Alors elle me dit, oh non, mais le signataire n'est pas là, c'est pas grave, je m'en occupe demain. Ah, je suis, ah bah non, la Bible dit qu'il faut payer son salarié à temps et en heure. On a jusqu'à ce soir, la tombée de la nuit. Elle dit, non, mais c'est dur, il faut avoir trois signatures et tout. Je dis, la Bible dit qu'il faut payer son salarié en temps et en heure. Donc, on va faire tout notre possible pour y arriver. Si on n'y arrive pas, au moins, on aura fait nos efforts. Mais on doit payer le salarié en temps et en heure. Elle me dit, ok, je prends le challenge. Alors, moi, j'étais en Israël, elle était ici. Et les gens, les collègues et tout m'ont tous dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Elle est en train de courir dans tous les sens, parce qu'elle a essayé de faire signer. Elle dit, non, il était 10h30 du matin, elle dit, la banque ferme à 11h pour faire les virements, c'est avant 11h pour envoyer les virements. Donc il fallait qu'elle court, etc. Et voilà, et elle arrive, 11h20, Monsieur Bérébi, on a réussi, merci mon Dieu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. L'argument que j'ai donné, c'est de dire que la Torah dit ça. Et une chrétienne... admirer ça. Cette personne-là, bon, je ne vous cache pas, c'était une personne qui travaillait avec Xavier Niel. Et cette personne-là, quand j'ai quitté Xavier Niel, il y a quelques années, beaucoup de gens disaient, bon, Jérémy, c'est Xavier Niel, et lui, sans Xavier Niel, ça va pas être la même chose, etc. Elle m'a dit une chose, elle m'a dit, de toute façon, monsieur Bérébi, vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez que réussir. Une femme non-juive. Et ces expériences-là, de non-juifs, admiratifs, de gens qui, en fait, sont chômeurs, Torah ou Mitzvot, en permanence, c'est en permanence dans ma vie. Et la permanence de vie, qui sont de plusieurs personnes qui sont comme ça autour de moi. Aux États-Unis, c'est assez courant qu'il y a plein de gens orthodoxes. Il faut savoir que le vice-président marketing de Danone, la marque Danone aux États-Unis, est un quelqu'un qui me ressemble, barbe, kippa, etc. Aujourd'hui, les vice-présidents marketing de IAC, IAC, c'est ceux qui ont Expedia, Match.com et tous ces sites-là. Une des plus grosses boîtes d'Internet. Le mec, il est orthodoxe. D'accord? Il étudie tous les jours, Gemara, etc. Il fait du Kiddush Hashem en permanence. Et en fait, on se rend compte que finalement, certaines fois, quand on nous traite de sale juif, c'est peut-être parce qu'on l'est. Vraiment. Je veux choquer personne. Mais peut-être que certaines fois, et c'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que même si un fou te fait une insulte, tu dois te dire que c'est un message envoyé de Dieu. Cette insulte-là, tu dois la prendre. Ah, il est fou, c'est un autre problème, etc. Non, non. Tu as reçu quelqu'un, t'a dit tu es un voleur. Tu dois réfléchir. Les Chachamim étaient comme ça tout le temps. Si quelqu'un me disait, mais t'es un voleur, alors que toi tu dis non, j'ai un amour proche, tu vas dire, ah, il a dit ça, même si c'est la folie, tu l'as vérifié, et en général tu découvres, j'ai oublié de rendre l'argent à mon ami à qui j'ai emprunté il y a 2 semaines. J'ai tellement oublié que je ne comptais pas le rendre. Ouais. Alors, expérience maintenant un peu différente. Un jour, on change de bureau dans les années 2000, et on décide de mettre des... Enfin, on décide. Pas qu'on décide, c'est qu'on doit mettre des mezouzot au bureau. Donc, en fait, les salariés sont rentrés dans la journée. On n'avait pas encore de mezouzot. Et avant leur soirée, c'était Jean-Paul Amoyel qui est venu mettre des mezouzot chez moi. On était très proches à l'époque. Et donc, on met mezouzot. Les salariés n'étaient plus là. Et le lendemain matin, tout le monde arrive avec des belles mezouzot bien marbrées et tout. Et j'avais une directrice financière à l'époque qui arrive et qui me dit « Ah, Jérémy, c'est sympa, il paraît que ça porte bonheur. C'est comme ça qu'on fait ?» Et elle se met à embrasser. Elle n'était pas juive. C'est comme ça qu'on fait. Et les salariés qui rentrent, qui regardent avec un grand sourire. Il y en a un qui rentre et qui regarde comme ça, un peu énervé. Il arrive, il rentre dans mon bureau. Un non-juif aussi. Il arrive dans mon bureau, il me dit « Jérémy, déjà nos bureaux sont rue du Sentier. » Ah, c'est là l'endroit où il y avait toutes les startups. En plus, tu mets des trucs visibles, tu trouves pas que tu exagères. Je fais, regarde, ça te regarde pas, c'est comme ça. Et voilà, moi ça me dérange pas du tout que ça soit comme ça. Si ça te dérange, je comprends pas pourquoi. C'est avéré que cette personne-là était juif. Il avait changé de nom, il a escroqué l'entreprise. 3 mois plus tard, je l'ai appris, et on m'a appris son vrai nom, c'était Rosenberg. C'est une des seules personnes dans ma vie professionnelle qui a été me reprocher mon judaïsme. Et très, très, très souvent, les reproches qu'on va recevoir proviennent des juifs. Des juifs moins pratiquants, des juifs même des moins pratiquants qui peuvent te dire « Ah, mais t'exagères de ne pas serrer la main aux femmes. Je ne serre pas la main aux femmes quand je fais des rendez-vous d'affaires. » C'est très difficile. Quand Axel Lemaire, l'ancienne secrétaire générale, est arrivée en Israël, elle est arrivée vers moi, 2 fois elle est arrivée en l'espace d'un an, les 2 fois elle m'a serré la main, les 2 fois je lui ai dit « Je suis désolé. » Alors la première fois, c'était une fois, la deuxième fois, j'étais sûr qu'elle s'en rappelait. Mais en fait, non, elle ne s'en rappelait même pas, que la première fois, je lui ai dit, elle me dit, c'est très bien que vous soyez comme ça. Venez, j'en ai marre de parler de start-up depuis 2 jours. On s'assoit, on va parler un peu de Talmud. Expliquez-moi, ma mère était prof de philo. Venez, on parle un peu, c'est quoi le Talmud, ça marche comment, etc. Dingue. Et voilà, on peut se faire reprocher des choses parce qu'effectivement, en tant que juif, certaines fois, on a honte. On a honte. À l'envers, des fois on a trop de fierté. Des fois on a trop de fierté. On a trop de fierté, c'est quand quelqu'un va avoir un problème antisémite, on va se mettre à hurler dans tous les sens. Quand quelqu'un va nous dire, les gars, vous faites trop de bruit, vous allez dire, ouais, c'est parce qu'on est juif que vous dites comme ça. Effectivement, nous on doit se dire, effectivement, en permanence, que la responsabilité, qu'être juif, c'est une responsabilité. On fait partie de la famille royale. Il faut savoir qu'en Angleterre, il y a plusieurs choses intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs que la famille royale d'Angleterre, depuis très longtemps, les enfants de Kate et William de la famille d'Angleterre sont circoncis au 8e jour. D'accord ? Vous savez. La deuxième chose, c'est qu'on est les journalistes étaient très, beaucoup de journalistes étrangers étaient très étonnés qu'ils ne se donnaient pas la main. Le couple Kate et William en public. Donc ils disaient évidemment il doit avoir un problème. Là, bon, hier Donald Trump il a rejeté la main de sa femme, je vois il y a une histoire comme ça. Mais en tout cas ils se donnent pas la main. Et un jour quelqu'un leur a dit pourquoi vous ne donnez pas la main? Elles ont expliqué nous représentons la couronne d'Angleterre, ce n'est pas le moment de montrer ça. C'est pas le moment de montrer cette affection-là. C'est pas ça qu'on fait en public. Aujourd'hui, on va dans la rue, on s'enlace, on se truc, sa copine, son truc, etc. D'accord ? On dit, rien, aucun problème. Nous, la famille royale d'Angleterre, elle est comme ça. Les Juifs, c'est encore plus haut que la famille royale d'Angleterre. C'est encore plus haut. On est la famille la plus ancienne de l'humanité. On est le descendant, on est l'ancêtre. La famille qui est l'origine de l'ensemble des religions monothéistes du monde. On fait partie de la famille royale. On a une responsabilité. On doit faire attention à comment on parle devant les gens. On doit faire attention à comment on se comporte. On doit faire attention à la manière de parler, comme j'ai expliqué. Manière de mentir, etc., etc., etc. Tout ce que l'on doit faire, on doit le faire en réfléchissant avant. Alors, ce n'est pas le sujet dont je vous parle aujourd'hui, mais on a un gros problème aujourd'hui avec les smartphones. Le smartphone, le fait d'être connecté en permanence, d'accord ? En permanence, nous empêche de réfléchir à ce qu'on doit faire dans la vie. À chaque étape. On est toujours connecté, on a toujours quelque chose à faire. Et des fois, pour certains, même Shabbat. Alors qu'en fait, un juif en permanence, à chaque pas qu'il fait, avant de dire chaque mot, il doit peser ses mots, il doit faire attention à ce qu'il est en train de faire, etc. Il ne faut pas qu'il y ait des interférences. Tous ces smartphones, tous ces trucs-là. Je dis, je suis actionnaire, j'ai fondé des boîtes de jeux vidéo. Je suis le cofondateur d'une boîte qui a lancé Songpop, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un des plus jeux, des centaines, plus de 100 millions de joueurs. Je suis le cofondateur de Litchi, si vous connaissez Litchi. Voilà, je suis cofondateur avec Céline Lazare de Litchi. Diode Buy, notre boîte. Donc il y a des choses, ce monde-là, c'est mon monde. Mais nous, juifs, et aujourd'hui même les non-juifs s'en rendent compte, on a besoin de ce qu'on appelle le Yishuv Da'at. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir l'esprit reposé, de ne pas aller trop vite, et de faire les choses au fur et à mesure de manière pensée, réfléchie, et effectivement toujours en alignement avec la halakha. Je finis, et après on passe aux questions. Il y a le sujet dont je vous ai parlé, j'ai commencé avant que Moiselle arrive. Il y a un Rambam qui dit que le derer des hommes, Derer Briato chez la dame, la nature de l'homme, liot nimshar bederotav maasav, acharea vechaverav, et d'être tiré dans son esprit, dans ses idées et dans ses actes par son entourage, par ses proches et ses amis. Et ils vont et ils vivent de la même manière que les gens de leur entourage, l'anche benidato, de la manière dont les gens du pays. Les Français. On a tous un lien particulier. On dit merci en Israël, par exemple. Ils n'ont pas l'habitude là-bas. Ce n'est pas une critique. Ils n'ont pas l'habitude. Ce n'est pas comme ça qu'ils font. Donc, le Rambam dit, c'est une halakha dans une chot deot, la nature de l'homme, c'est d'être attiré par son entourage. Lefichach, donc, tzarech adam leitraber letzadikim. Un homme doit être en permanence mechoubar, accroché au tzadikim. Ou lishev etzel chachamim, et être installé à côté des sages. Tamid, tout le temps. Kede sheilmod mimaasem, pour qu'ils apprennent de leurs actes. Il faut avoir en permanence des tzadikim à côté de soi. Un tzadik, ce n'est pas obligatoirement le rabbin avec la grande barbe, le grand sage de Bnei Brak. Le tzadik, ça peut être un très bon élève d'une classe. Pas obligatoirement qu'il y ait les meilleures notes, mais quelqu'un de studieux, quelqu'un qui fait attention à comment il parle, etc. Un bon garçon. Et on doit être à ses côtés. On doit faire en sorte à être à ses côtés. Donc, Ve'itrachek min ha'rechaim, et on doit s'éloigner des méchants, des mauvais. Ha'olchim b'chosher, qui vont dans l'obscurité, kedesh lo ilmod mima'asem, pour ne pas apprendre de leurs actes. Ou chez Shlomo Omer, non, on va passer cette place. Après, il dit voilà, et si vous vivez dans un pays où il n'y a pas de sages, allez vivre seul. Allez vivre seul. On est tellement attiré par son entourage, par sa bande de copines, sa bande de copains, ses parents, ses cousins, tous les gens qu'on côtoie en permanence. Et malheureusement aujourd'hui, avec Facebook, le monde entier, on côtoie maintenant tout le monde. Là, quand le Rambam parlait, c'était les gens du petit village dont il parlait. Et un peu du pays. Là, on est connecté au monde. Donc on est en permanence avec plein de gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est inconsciemment, on est attiré par ça. C'est un tourbillon. On voit les gens qui s'habillent un peu différemment, hop, on va aller s'habiller comme ça. On voit les gens qui parlent mal et faire des achats, hop, on va être attiré par ça. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. On s'en rend compte uniquement si on lit ça en permanence. Moi, je lis en permanence ça. Attention de pas être nimcha. Il y avait quelques épisodes que je vous ai expliqué au début. Les filles, dommage, il fallait arriver à l'heure. C'était exactement ce qui a failli se passer. Non, je vais vous dire l'histoire parce que quand même, je peux le raconter. Ouais. J'étais au lycée et il y a eu exactement, donc au même moment de cette période d'année, il y a eu notre prof de maths qui nous annonce, voilà, il y a une surprise cet après-midi, vous n'avez pas cours. Ah, super. Voilà. Par contre, on a invité des parents d'élèves qui font chacun un métier différent pour que vous puissiez aller poser votre question et pouvoir effectivement voir si le métier qu'ils font vous plaît. Je répète, c'est une super bonne idée. Hein. Moi, je vous dis, ça m'a... Voilà, grave, j'ai entendu grave. Donc, j'ai encore le temps, encore un mois pour organiser. Et moi, c'est ce que je me suis dit dans mon cœur. J'ai dit, ah, c'est super comme idée. Et là, j'ai un ami qui lève la main. Monsieur, est-ce qu'on est obligé de rester? Pourquoi elle rigole ou non? Non, vous êtes au courant de l'histoire. Ok. Vous n'avez pas rigolé comme ça. Est-ce qu'on est obligé de rester? Et il dit, vous savez, on a fait ça pour vous, faites ce que vous voulez. Alors là, et mes amis ont dit, ah bah tiens, on a un après-midi de libre. Un peu d'arrogance, Et là, ce qui s'est passé, c'est que c'était mes amis proches, ma bande d'amis. Et donc moi, ce que j'ai fait, alors que je venais de penser dans mon cœur que c'était une super idée, ah super! Je vais expliquer, ce jour-là, il y avait Rutel Krief, qui était aussi une des personnes qui était là, une journaliste télévision. Ah, vous n'avez pas la télé, c'est super. Super. Baruch HaShem. C'est super ça, genre. Et pour moi, dans mon cœur, je m'étais dit, c'est super idée. Mon ami dit ça, mes copains le suivent et moi je le suis. Et là, je descends, je sors de l'école, j'avance dans toute la rue, on avait 5 minutes de marche jusqu'au métro, je descends dans le métro, j'arrive dans le métro, je rentre dans le métro, les portes sonnent. Et là, j'ai un déclic, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je descends du métro. Mes amis étaient à la fenêtre, ils font, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le métro s'en va. Et moi, je remonte et je retourne à cet événement. Ce jour-là, c'est le jour où j'ai rencontré mon mentor, mon associé. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, j'avais suivi la masse, pas parce que j'avais réfléchi seul avec ma tête, mais parce que j'avais fait exactement ce que me dit le Rambam là. J'avais suivi la meute de moutons qui était à mes côtés. J'avais suivi mes copains. Et ça, c'est super important. Parce que quand on veut évoluer, on doit faire super attention à ne pas être freiné par son entourage. Et en général, quand on est trois, il y en aura toujours un qui veut le moins avancer que les autres. Malheureusement, on est tiré vers l'arrière, on n'est pas tiré vers l'avant. On doit faire en sorte à en permanence essayer d'avancer et d'être, en fait, même s'entourer de gens qui sont encore plus de tzadikim que nous et qui, en fait, veulent mieux respecter les mitzvot, avoir une vie encore plus fine et encore meilleure que nous. Voilà, je peux vous parler pendant 14h50. J'ai parlé une heure. Ah, oh, bah c'est bien. Donc voilà, je vous propose, si vous voulez, je peux répondre à vos questions. Merci. Ah, il faut des questions, hein. S'il n'y a pas de questions, c'est pas sympa. Allez, on y va. Et n'ayez pas peur des copains, des copines. Allez-y, question. J'étais fort jusqu'au troisième. Jusqu'en troisième. J'avais le brevet d'avance. J'ai eu le brevet d'avance, donc et point, je ne sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnait pareil. Voilà. Et quand j'étais à Maïmonide, je me suis retrouvé. Enfin, à RUCL, j'étais le meilleur de la classe. Maïmonide, je suis arrivé un des plus nuls. Et j'ai pris un peu de temps pour remonter. Mais en fait, en première terminale, j'étais pas vraiment très sérieux puisque je travaillais en parallèle. Et donc, voilà, j'ai eu mon bac au rattrapage. Mais bon. Mais je vous dis, c'est pas le sujet maintenant de savoir effectivement est-ce qu'on doit faire. On doit mettre l'accent sur l'étude. Est-ce qu'on doit faire des études ou pas des études? Chaque cas est personnel, chacun est individuel. Moi, j'ai eu une chance particulière d'avoir le métier, d'avoir les compétences qu'il fallait à un certain moment. Le truc, c'est de ne pas se laisser guider dans un train. Par exemple, moi, en ce moment, je parle à des gens qui disent « je vais faire des études ». Je fais « pourquoi tu fais des études ?» Je fais « parce que les gens font des études ». « Mais tu vas faire quoi après ?» Ah, bah, j'en sais rien. Ça, c'est un problème. On doit avoir un plan dans la vie, avoir un plan, un objectif et faire ce qu'il faut pour arriver à cet objectif. Et voilà, donc j'ai répondu à la question, j'étais bon quand je voulais être bon et quand j'étais pas très chaud, j'étais moins. Voilà.
Vous avez dit quoi d'objectif dans la vie, mais par exemple, moi, plein de fois j'ai fixé des objectifs, mais je me décourage avant d'y arriver. Je n'arrive pas à me motiver pour aller jusqu'au bout.
D'accord. On parle de quel objectif, par exemple
Alors, j'ai essayé de faire du sport et tout ça.
Ouais. Bon, le sport, ça fait 20 ans que j'essaye aussi. Voilà ça. Regarde. Ouais. Je vais vous donner... Super question. Vous avez compris la question? La question, c'est... Donc, la question, c'est... Ce garçon, tu t'appelles comment ?
Benjamin.
Donc Benjamin se pose la question, il dit « Moi, j'essaye de me fixer des objectifs en permanence, des challenges et des choses que je veux faire, mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'abandonne en route. » D'accord ? Donc comment faire, finalement ? Parce que je suis en train de vous dire qu'il faut se fixer des objectifs. C'est une super question. Et la réponse, elle est aussi dans la Torah. Elle est aussi dans Chazal. Se dit que quand quelqu'un veut avancer et faire n'importe quoi, il doit y aller le plus doucement possible. Si je dis, alors que je suis un gros nul maintenant, dans un an je veux courir le marathon, certains ont réussi, mais la plupart ont abandonné avant même d'avoir réussi à faire 100 mètres de suite. D'accord ? On doit en permanence aller doucement et se donner des petits objectifs. Là je parle maintenant de ces problèmes, de ces sujets de sport par exemple, ou des choses comme ça. Dans la vie, on doit avoir un objectif global. L'objectif global c'est je veux être médecin, je veux être psy, je veux être pharmacien. D'accord, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à essayer d'arriver à ça. Quoi ? Juste pour finir. À Rosh Hashanah, on dit qu'on doit prendre des bonnes résolutions. D'accord ? On doit prendre des bonnes résolutions. La plupart des Chachamim et des Talmidim disent à leurs Talmidim, faites super attention, ne prenez pas des décisions folles. D'ailleurs, on dit que pendant les Aseret Yemei Teshuva, la résolution que vous devez prendre, c'est que si vous mangez du pain dans une boulangerie non cachère, je ne sais pas si vous savez, dans certains cas, on peut le faire, si le pain est cachère, mais cuit par un non-juif, pendant les 10 jours avant Kippour, vous devez manger du pain cachère. Quoi, c'est ça la grande résolution ? Non, c'est une petite chose, mais c'est un effort que vous allez faire. Et au fur et à mesure, si vous prenez l'habitude de faire des efforts, là, vous arrivez à faire beaucoup de choses. Là, je vais vous donner par exemple ma résolution de Rosh Hashanah. Je vais vous dire, secret. Résolution de Rosh Hashanah, on peut plus dire, ouais, j'ai décidé qu'au lieu d'étudier 3 heures par jour, j'étudie 8 heures. Ou quand j'étudiais ça, c'est là, j'aurais pu prendre des trucs complètement dingues. Non. Ma décision de Rosh Hashanah, c'est quand je sors des toilettes et qu'on doit faire la bracha d'Asher Yatzar, je m'arrête et je ne bouge pas pendant que je la fais. C'est ma résolution de l'année. J'ai toute l'année pour y arriver et ne plus faire cette erreur. Ça a l'air fou. Ça a l'air le plus simple possible. Mais arriver à faire une bracha bien de cette manière, Bah, ça, à la fin, au final, ça se resplendit sur l'ensemble des brachot et notre relation qu'on a avec Dieu. On donne de l'importance aux mots qu'on sort de sa bouche. D'accord ? Une petite chose peut devenir une grande chose. Donc voilà, il y avait une question après. Enfin. Études, alors la question c'est, est-ce qu'il y a des études incompatibles avec un juif ? Ouais, DJ, bonne réponse. Ah. Non, c'est vrai, j'ai pas pensé. On peut être DJ, vous savez, à Bnei Brak, on a des DJ, DJ de Bar Mitzvah de Bnei Brak. Super sympa, ils mettent une ambiance de dingue. Mais serveur de boîte de nuit, et, etc., bon, il n'y a pas d'études pour ça en même temps, je pense pas. Non, je pense, de mon expérience, j'ai vu très rarement des métiers 100% incompatibles, enfin incompatibles, où on ne peut pas être chômeur mitzvot. Dans le marketing, là, si les demoiselles m'entendent, c'est beaucoup de demoiselles font du marketing et de la communication, on est très très souvent entouré de grands menteurs. Quand on travaille dans des agences de publicité, les patrons nous demandent de donner des faux chiffres aux annonceurs. Quand on travaille dans une boîte, on va mentir en faisant des publicités qui ne disent pas vraiment la vérité sur le produit, en montrant des choses pas très bien. Dans le marketing, il y a pas mal de challenges. Mais pareil, comme dans tout, il faut savoir que nous, on descend de Yaakov, d'accord ? Israël, les Béné Israël. Israël, c'est le deuxième nom de Yaakov. Yaakov, si on étudie sa vie dans la Torah, Yaakov, la grande partie de sa vie, c'est 22 ans qu'il passe chez Laban. Laban, c'était qui ? C'était l'un des plus grands mécréants de l'histoire de la Torah. D'accord ? Quelqu'un qui a essayé en permanence de tricher sur Yaakov. Il voulait se marier avec Rachel, il lui a donné Léa. Après, on dit qu'on lui a changé 1000 fois le contrat. Il lui a changé 1000 fois. À chaque fois qu'il voyait qu'Yaakov arrivait, prenait un avantage sur un contrat, il lui changeait les conditions en cours de route. Il a tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Yaakov a décidé... ce qu'a fait Yaakov, excusez-moi, c'est un peu dur si vous parlez, désolé. Bon, ça me dérange pas que vous parlez, mais dommage. La chose qu'a fait Yaakov, c'est que malgré le fait qu'il soit entouré de malfrats, il était droit jusqu'au bout. Il a rusé, il a fait des choses qui étaient malines, mais complètement yachar, dans le cadre de son contrat. Il avait des choses malines, mais il a été droit. C'est immédiatement après être parti de chez Laban que l'ange de Esav vient se battre avec Yaakov. Il y a cet épisode-là. Et il lui donne le nom de Israël. C'est quoi le nom de Israël ? C'est Yachar El. Yachar Kel. Droit devant Dieu. C'est quelqu'un qui a été droit en fin fond de cette bande de malfaiteurs qui étaient les gens de Laban. Laban, je fais une parenthèse, il faut voir que le plus grand malfrat de la Torah, c'est celui qui s'appelle Blanc. D'accord ? Il est blanc. Parce qu'en général, en fait, les gens malhonnêtes, ils se trouvent toujours des trucs pour être blancs. D'ailleurs, quand il a donné Rachel à la place de Léa, Léa à la place de Rachel, Laban a tout de suite trouvé, oui, mais nous, on ne marie pas la deuxième après l'aînée. Donc, les malfrats ont toujours des bonnes excuses. Donc, je vous dis, en Israël, il y a malheureusement un gros fléau des juifs, même de votre âge, qui vont leur alia et qui vont aller travailler dans des sociétés de forex, options binaires, etc. Des horreurs qui sont complètement contraires à la halakha, qui font un chilul Hashem gigantesque. Gigantesque. C'est l'opposé de Yaakov. On est les enfants d'Israël, on est l'opposé de tout ça. Donc voilà, donc en fait, normalement, l'ensemble des études peuvent arriver à challenge. Il y a pas mal. Ça vous intéresse et je vous donnerai mon mail à la fin. Ça vous intéresse, vous pouvez me parler d'un secteur et je peux vous envoyer des témoignages que je récolte de gens de certains secteurs sur certains métiers, et voilà. Est-ce que j'ai déjà eu des échecs et quel était mon état d'esprit pour les surmonter ? Si on n'a pas d'échecs dans la vie, on devient drogué. Les riches, heureux avec leur grande voiture, sont les gens qui meurent d'overdose. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun objectif dans la vie. Donc, les échecs sont obligatoires. Il y a un livre d'ailleurs que je suis en train de lire qui s'appelle Yeme Sina et Yeme Ahava. L'impression où il y a des jours où Dieu nous aime et des jours où Dieu nous haït. Et au final, tout ça, non, c'est une seule chose. c'est ça la conclusion effectivement du livre, je vous dis, je vais sauter une étape. C'est effectivement, c'est qu'en fait on a besoin des bas pour pouvoir profiter du haut. D'accord ? Et c'est en permanent débat. J'ai eu, dans mes entreprises que j'ai fondées, la moitié étaient des échecs, la moitié étaient des succès. Donc en gros, je suis pas spécialement très bon, j'en ai juste monté plusieurs. Le sujet par exemple, c'est une des boîtes qui a coulé en 2009, juste avant que je m'associe avec Xavier Niel. J'annonce à l'ensemble des salariés, il y avait une vingtaine de personnes, on était à Ranana. J'annonce à un salarié que voilà, la boîte va fermer. Bon, ça sentait un peu le roussi depuis quelques temps. Mais bon, ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que ça vient maintenant. Et ils me voient avec le sourire. Ils me voient avec le sourire. J'annonce, voilà, bon, bah voilà, c'est terminé, etc. Parce que, ok, c'était un problème pour eux, mais c'était un problème pour moi. C'était le projet que je portais, etc. Et j'ai mon assistante, pas religieuse du tout, qui ne connaissait absolument rien du judaïsme, comme malheureusement beaucoup d'israéliennes. Rien de rien. Et qui me dit, Jérémy, je comprends pas. Après que j'aurais annoncé chacun, il me dit, Jérémy, je comprends pas. Quand on a des bonnes nouvelles, tu souris. Ça, je comprends. Mais quand on a des mauvaises nouvelles, pourquoi tu souris? Je comprends pas, tu souris tout le temps. Et j'ai expliqué la vision du judaïsme. La vision du judaïsme, c'est Hachem nous envoie tout. Nous envoie les échecs et le bien. On dit avoir du bitachon en Hachem, avoir confiance en Dieu. C'est ne pas savoir que Dieu va faire ce qu'on veut, et si on veut être médecin, qu'il va faire en sorte à ce qu'on soit médecin, c'est que Hachem va faire ce qui est bien pour nous. Et c'est ça le bitachon. Et quand on a le bitachon et on sent Hachem en permanence à côté de soi, c'est un truc qui se travaille. Moi, ces sujets-là, je les lis toutes les semaines. J'ai 2 heures de moussard par semaine où je relis, je répète ça. Quand on a ça, finalement, on voit tout bien. Ah, il m'est arrivé, il y a 2 mois, j'ai perdu 2 de mes plus gros contrats. En l'espace d'une demi-heure. À ce moment-là, mon fils m'appelle. Il y avait ma femme avec tous les enfants en voiture. On a un petit bus, minibus. Et ma femme et mon fils m'appellent. Il me dit, papa, la voiture s'est arrêtée sur l'autoroute. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a de l'essence, il y a tout, etc. Ça se passe en l'espace de 40 minutes, tout ensemble. Plein de problèmes. Et là, je me suis rappelé d'un chiour de Rav Yechiel Ben Shetrit. Donc moi, je suis très, très proche de Rav Ben Shetrit. Je vais vous écouter les cours de Rav Ben Shetrit. Voilà. Franchement, ça change la vie. Change la vie. Le couple, ça change tout. Et j'ai fait son premier site internet, entre autres. Je me suis rappelé d'une chose de Rav Ben Shetrit qui raconte quelqu'un qui arrive, se lève le matin, il trébuche quand il se lève du lit, quand il claque la porte, il oublie les clés à l'intérieur, il descend, il avait oublié les clés de la voiture dans la maison. En gros, il a, dans l'espace de 20 minutes, il a plein de problèmes. Et là, normalement, on déprime. Oh, quelle galère, j'en peux plus, etc. Et là, il dit, voilà comment on doit analyser les choses. On prend chaque chose une par une, indépendamment, on dit, est-ce que c'est si grave? Non, la porte est claquée, je vais appeler un serrurier. Ah, je suis tombé, c'est pas grave, je suis un peu mal. Ah, ma clé est pas là, bon, c'est pas grave, je vais prendre le métro. Pas très grave. Mais quand on a paf, mitraillette de choses, les unes après les autres, ah. Et là, moi, j'ai cette phrase-là, cette histoire-là de Rav Ben Shetrit, je l'ai depuis 15 ans dans la tête, d'accord? En permanence. Et il y a eu quelques fois où j'ai eu ça. Donc là, j'ai eu les 3 problèmes à la suite. J'ai dit, ah, Hachem, là, t'es en train de m'envoyer un message. Et j'ai fait un grand sourire. Mon fils me rappelle, il me dit, papa, la voiture a redémarré. J'ai dit, ah, le premier plus gros problème, il est réglé. Les 2 autres problèmes, c'est pour le bien. Et tac, 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 ils ont entraîné que grâce à la perte de ses contrats, j'étudie 2 heures de plus par jour, donc c'est super. Mais il faut voir la vie comme ça. Il faut voir la vie avec Hachem à côté de nous tout le temps. Hachem à côté de nous tout le temps. Savoir que je peux continuer ou...
Ouais.
5 minutes. Dans le sujet de la Hashgacha, dans le sujet de le Hachem qui est présent à côté de nous ou pas, Hachem est présent à côté de nous en permanence si nous, on se rapproche de lui. Si nous, en fait, on est en train de se rendre compte qu'il est à côté de nous. Plus on se rend compte qu'il est à côté de nous, plus on va voir le monde différemment. Moi, je vois des gens autour de moi qui font effectivement pas les mitzvot, pas Shabbat, etc. etc. Et ils me disent, oh, ce que tu racontes, bah ouais, Hachem n'est pas là, regarde tes galères et les trucs, etc. Bah ouais, bah, en même temps, tu t'approches pas non plus. Plus on s'approche, plus effectivement, approcher. Moi, personnellement, c'est chaque minute, chaque seconde. Pour moi, il m'arrive des miracles. Des miracles. Il y a des gens que des fois me prennent pour des fous, parce que j'analyse plein de trucs, etc. Mais donc voilà, des échecs, ce ne sont pas des problèmes. Donc, ceux qui ratent leur bac, ce n'est pas un problème. Ceux qui se retrouvent pas un problème. faut réussir, essayer de réussir. Mais en tout cas, si ça arrive, ça arrive. Moi, même mes amis, j'avais deux de mes amis qui ont raté leur bac. C'était mes premiers employés de ma société. Aujourd'hui, ils font partie des gens qui ont pu réussir autour de moi. Ça ne veut pas dire, je dis attention, le bac, c'est important. Mais voilà, eux, il ne fallait pas qu'ils aient leur bac, il fallait qu'ils fassent ça à ce moment-là. Voilà. Donc la question c'est, est-ce que le fait d'être juif m'a jamais empêché de faire ce que j'ai envie par rapport à mon métier? Il y a de temps en temps, je peux me retrouver à vouloir... Il y a des gens qui me disent, viens, on va monter une société qui propose une nouvelle application, un nouveau service. Je ne sais pas si vous connaissez My Major Company, ça vous dit quelque chose? Non,
mais si, c'est
la... Allez, bon, c'est... My Major Company, par exemple, c'est une société qui a été montée par le fils de Jean-Jacques Goldman et qui, à l'époque, produisait des stars de la musique. Donc moi, il me propose d'avoir et de m'offrir des parts à la création de la société. C'était un super projet, un super... etc. Mais vraiment... immédiatement j'appelle mon rat, je dis regardez, là je la sens pas, vous avez complètement raison de refuser. Bon, ça m'a fait perdre 2 millions d'euros, mais Bah au Hachem, j'ai pas une seule fois où j'ai pas mangé depuis. Bah au Hachem, tout va bien. Et moi, pour moi, j'ai pas perdu 2 millions d'euros, j'ai 2 millions d'euros qui sont là-haut au Gan Eden, et j'ai fait ce que j'avais à faire à ce moment-là. Donc il y a des choses, mais c'est pas avec frustration que je fais, c'est avec bonheur. Dernière question. Alors, la question. Ouais. Là, c'est une dernière, toi, au début, j'étais plus en forme. La question, c'est en sachant qu'il y a deux, est-ce qu'il est plus intelligent, c'est l'intelligence ou la volonté? A priori, d'après ce qu'on a expliqué, d'après ce que dit la Gemara, l'intelligence est déjà définie à l'avance, avant sa naissance. Alors, on doit améliorer, on doit étudier pour... mais en tout cas, l'intelligence, on l'a déjà. Par contre, la volonté, c'est exactement ce qu'on attend de nous, la bonne volonté.
Ça peut surpasser les résultats de ceux qui sont
intelligents? Ah ouais, complètement. Est-ce que ça peut surmonter les résultats de ceux qui sont intelligents? Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Je vais vous dire, parmi mes enfants, j'ai une fille qui n'est pas spécialement une des meilleures de classe. Mais elle a une volonté de dingue. C'est-à-dire qu'elle est du matin au soir, elle s'organise des trucs, elle apprend la peinture, elle apprend le ciel, elle apprend le graphisme, elle apprend le truc. Elle a 12 ans. Alors, franchement, est-ce qu'elle est intelligente? Je la trouve maligne. C'est pas une intelligente quand elle est à l'école, comme je dis, c'est pas le plus simple. Mais elle a un ratson, elle se lève, elle saute du lit. Bah, au Hachem, vous voyez, chacun, on est tous différents. Il y a un truc, c'est-à-dire, si maintenant, moi, je dois demander une bracha à Hachem, une bracha, c'est la menuchat nefesh, c'est-à-dire c'est la tranquillité d'esprit. La meilleure bracha qu'on doit demander à Hachem en permanence, c'est fait que je sois libre d'esprit, que je ne sois pas très stressé par mon bac. Moi, vous savez, quand j'ai passé mon bac, j'étais pas stressé. À côté de moi, j'étais dans le métro, il y a une fille qui a vomi en face de moi, tellement elle était stressée. Ah non, c'était horrible. Moi, j'étais là, j'étais entraîné à un magazine informatique. Le vendredi d'avant, j'avais... Bon, attendez, je ne veux pas faire de bêtises. Hein. Vous passez votre bac maintenant, il faut être sérieux. Mais vraiment, je n'étais pas stressé. À un point, le vendredi d'avant, je venais de rendre la copie de mon livre. J'ai écrit un livre et j'ai rendu le vendredi juste avant le bac. Le mois du bac, un mois avant le bac. Alors, je vous dis l'histoire, je raconte l'histoire du livre. Je peux encore? À un moment, donc, j'étais journaliste et tout. À un moment, il y a les éditions micro-applications, je pense que ça existe encore. Un gros éditeur de livres dans l'informatique m'appelle et me dit, voilà, monsieur Bérébi, c'est le directeur de CompuServe qui m'a donné votre mail. Il paraît que vous êtes le plus grand spécialiste de CompuServe, donc c'est l'ancêtre d'Internet. On aimerait vous écrivez un livre. Alors je lui ai dit, vous savez, j'ai 18 ans, je passe mon bac dans un mois, c'est super important pour vous, monsieur, etc. On a vraiment besoin que vous le fassiez, on voit personne d'autre qui peut le faire. Vous écrivez bien, vous êtes si, etc. Bon, il y a un truc, c'est que j'écris très bien, on me disait ce que je réussis, j'écris très bien. Et là, alors je rentre chez moi le soir, et à l'époque j'avais un tam-tam, c'était un beeper, et on m'envoyait des messages dessus quand il y avait une urgence, donc ça j'avais reçu un message, j'avais tapé d'une cabine, on n'avait pas les téléphones portables encore, et je rentre chez moi le soir et je vais voir mes parents, Et je dis, alors non, d'abord l'éditeur me dit, voilà, on vous paye 20 000 francs. 20 000 francs, c'est genre 4 000 euros. Un mois de travail. Sympa. Attends, votre âge, hein. Exactement votre âge. Alors, j'ai dit, bon, d'accord. Bon, moi l'argent, je ne savais pas à quoi ça servait encore. Franchement, à l'époque, on ne s'achetait pas des trucs trop chers, on n'avait pas de smartphone et tout, donc on dépensait moins. Je rentre chez moi, je vais voir mes parents, ma mère est orthophoniste, mon père est commerçant. Je précise parce que ça, vous allez voir les différences mentalités. Et donc je dis ça, et ma mère me dit, Jérémy, t'as ton bac, pas grave, t'auras d'autres occasions, passe ton bac et on verra. Et mon père, il me fait, combien il t'a proposé? Alors je dis, il m'a proposé 20 000 francs. Alors je fais, il me dit, propose 30 000, si il accepte, tu prends. Bon, alors je fais, bon, bah, je tente. J'appelle la personne, 30 000 francs, donc ça fait combien? Je pense que ça fait 5 000 euros, 6 000 euros. Un mois de travail. Et là, donc je rappelle l'éditeur et je dis voilà, voilà, c'est moi, etc. J'en ai parlé avec mes parents, c'est bizarre quand même. Hein. Voilà, je parlais avec papa et maman. Savoir qu'à mon premier entretien, quand j'étais recruté, il y avait mon père qui était avec moi. Hein. J'étais mineur, j'allais avoir 18 ans quelques jours après. Et je lui dis voilà, j'accepte, mais uniquement 30 000 francs. Le mec, il dit, bon, hein, ça va être dur. Il fait semblant de calculer de son côté, alors que lui, en fait, derrière, il avait signé un contrat gigantesque, ça lui rapportait une fortune. Il l'avait déjà vendu, en fait, les livres. 3000 exemplaires, ils sont partis le jour même. Et bon, d'accord, on accepte. Bon. Bon, donc là, j'ai un peu refermé mes livres et j'ai été écrire mon bouquin. Et c'était un livre sur l'utilisation d'un truc qui s'appelait CompuServe. C'est l'ancêtre d'Internet. C'était un système où on avait des forums de discussion. Voilà, imaginons que j'avais écrit un livre sur Internet. Comment fonctionne Internet? Mais à l'époque, on était en France 20 000 sur Internet, 10 000. Il n'y avait personne. Donc, c'était le début, en fait. Donc, je ne sais pas comment on arrive à ça, mais cette question. Je voulais encore une question.
Vous avez pris quoi comme bac?
Comme bac? S. Mais bon, franchement. Non, ça veut dire après, c'est chacun avec son... Il n'y a pas un mieux que l'autre, chacun avec ce qu'il aime. Moi, je pensais être scientifique parce que j'étais informaticien. Finalement, il s'est avéré qu'aujourd'hui, je fais de la finance, je fais de l'investissement. Je regarde des Excel et des trucs. Franchement, même avec un BTS, on peut devenir millionnaire. Hein, donc, on arrête. Merci à tous. À bientôt. Je vous donne mon mail. Au cas où vous avez des questions, c'est mon prénom Jérémy, J-E-R-E-M-I-E, @Beremi, B-E-R-E-B-I.org. Au revoir. @Beremi.org. Voilà.
Tu t'appelles comment? Il y avait d'autres intervenants avec vous, ils vous demandaient.
D'accord.
Oui, vous les verrez. Sur le même mail que vous
contactez. Oh, ouais.
Merci pour la réponse. Merci de vous laisser.